Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais, pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion.
Bonsoir tout le monde. Ça fait très plaisir de vous voir enfin face à face. Je vous connais quelques-uns, certains parmi vous, mais je sais que depuis même avant le lancement de l'Église Connexion, vous priez pour nous, vous nous soutenez dans la prière, même en envoyant. Certaines personnes qui sont engagées dans l'Église maintenant ont été envoyées chez nous par vous. Sont venus ici chercher une église, ils venaient de déménager à Paris et quelqu'un dit « mais il y a une église à Châtelet qui s'implante, il faudrait aller voir ». Et ils sont toujours là, donc je me réjouis de pouvoir être parmi vous enfin ce soir pour la première fois. Et vous avez les salutations de tous les autres membres de l'église Connexion que j'ai quitté il y a quelques minutes seulement, alors qu'on a terminé notre culte. Alors on a officiellement démarré l'église Connexion au mois de septembre dernier, et certains nous ont posé la question, mais pourquoi l'appeler l'église Connexion? Pourquoi ce nom? Et en fait, il y avait trois raisons. La première est assez lamentable comme raison, mais c'est une raison quand même. La deuxième est plus importante encore, et la troisième encore plus importante. Donc, la première raison, c'est que ça sonne bien, on trouve. On aime bien ça, et le nom rend curieux des gens qui ne sont pas habitués à entendre un nom comme ça. Et donc, on s'est dit que c'était pas mal. La deuxième, qui est plus importante encore, c'est que Châtelet-Léal, comme vous le savez, est le plus grand lieu de connexion, en quelque sorte à Paris, avec les lignes de métro qui sortent juste devant là où on tient le culte. On trouvait que c'était très approprié pour notre situation. Mais la troisième raison, la raison la plus importante de loin, c'est que nous voulons que Jésus-Christ ait la première place, nous voulons que l'Évangile soit au centre. Et grâce à ce que Jésus a fait pour nous et grâce à cet évangile qui nous a été annoncé, on veut que le nom de l'Église reflète notre désir, que l'Église ne soit pas simplement un lieu où on se rassemble tous les dimanches pour entendre la parole de Dieu et pour louer, mais une communauté de croyantes qui vivent leur vie en lien étroit, en connexion les uns avec les autres, qui vivent l'évangile tous les jours de la semaine ensemble. Et donc la raison pour laquelle c'est tellement important pour nous est donnée dans ce texte que nous venons de lire. C'est donné dans ce texte, entre autres, il y a d'autres textes qui le disent encore. Et il faut dire qu'il est impossible de dire tout ce qu'il y a à dire sur ce texte merveilleux dans les quelques minutes qu'on a, mais on va faire de notre mieux. Mais au risque de manger quand même un peu de temps avant de rentrer dans le texte, il faut quand même adresser la difficulté de ce texte. C'est un texte qui est un peu dur à comprendre si on n'a pas d'expérience dans l'Église. Il est difficile parce qu'il prend des idées de l'Ancien Testament et il les applique de manière radicalement nouvelle à la communauté de croyants aujourd'hui. Donc il dit que Dieu est en train de construire un nouveau temple pour lui-même et que nous sommes les pierres qui posent pour le construire. Mais avant d'aller trop vite à cette image du temple, je me suis rendu compte, alors que je lisais, que parfois, on a du mal à comprendre à quoi sert le temple en premier lieu, même avant de réfléchir sur le fait que moi, je fais partie de cette construction, on n'a pas froid du mal à comprendre pourquoi le temple existe en premier lieu et pourquoi Dieu voudrait en créer un nouveau. Donc, il faut, pour avoir la réponse à cette question, retourner au début de l'histoire, au début de la Bible, pour voir ce que Dieu faisait lorsqu'il a créé le monde et lorsqu'il a donné le temple. Donc, au commencement, vous connaissez le verset, dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé le monde et le monde était parfait. Donc, imaginez-vous deux sphères d'existence en quelque sorte. Le monde de Dieu, qui est rempli de sa beauté, de sa présence et de sa majesté, et le monde des hommes, avec les animaux, avec la terre et l'homme que Dieu a créé. Donc, au début, ces deux mondes ont été parfaitement unis. Ils étaient un, ensemble. Dieu marchait avec l'homme et l'homme était en communion permanente avec Dieu. Mais l'homme a péché contre Dieu. Il lui a désobéi. Et par sa désobéissance, ces deux mondes, le monde de Dieu et le monde des hommes, se sont séparés. Okay, le péché a mis une barrière contre le monde de Dieu et le monde des hommes et il a tout corrompu. Il a corrompu le cœur de l'homme, la création elle-même et le péché a essentiellement mis une barrière entre ces deux mondes. Le monde des hommes était séparé du monde de Dieu. Et donc l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du plan de Dieu pour réunir ces deux mondes. Son monde à lui et notre monde à nous. Et c'est ce qui se passera le jour où Dieu fera descendre pour le grand déménagement, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem sur la terre pour toujours. Les deux mondes seront parfaitement unis de nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore fait cela. On est d'accord, on ne vit pas au paradis aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas non plus qu'on soit obligé de deviner à quoi ça va ressembler. Alors, Dieu a voulu créer un endroit sur terre où le monde de Dieu et le monde des hommes peuvent en quelque sorte se chevaucher. Où le monde de Dieu piétine un tout petit peu sur le monde de l'homme pour pouvoir donner à l'homme l'accès à la présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a donné le temple. Il a mis en place des prêtres pour offrir des sacrifices pour le peuple, qui les purifieraient, au moins de manière temporaire. Et du coup, l'homme pouvait entrer dans la présence de Dieu sans avoir peur d'être anéanti par sa colère. Le temple était le lieu où le ciel et la terre se chevauchaient. Mais le temple n'était pas parfait. Évidemment, on le sait que cette zone que créait le temple restait pure grâce aux sacrifices, mais les sacrifices n'étaient pas tout à fait suffisants parce qu'un animal n'est pas un homme. Un animal ne peut pas pécher et donc le sacrifice n'est pas tout à fait en lien avec ce que l'homme vit. À chaque fois que l'homme péchait de nouveau, il était de nouveau corrompu par le péché et donc les sacrifices devaient se répéter à perpétuité. La seule substitution vraiment appropriée pour un homme pécheur serait un homme qui est capable de pécher, qui a toute l'opportunité de pécher et qui réussit là où nous avons échoué. Un homme qui résiste à la tentation jusqu'au bout et qui se propose comme sacrifice pour nous. Si un tel homme existait, un tel homme divin, il serait du coup possible que l'homme soit lavé de son péché de manière permanente de sa corruption. Il serait possible que Dieu crée un endroit permanent où le ciel et la terre se chevauchent de manière permanente. Okay? Donc Dieu sait que ça ne se passera pas tout seul, que personne, aucun homme ne sera capable de vivre ce genre de vie. Et donc il prie, et ce n'est pas en réaction, il a prévu ça depuis le début, il prend la solution de notre péché sur lui-même et il envoie son Fils. L'image de Dieu lui-même, Jésus-Christ, en forme d'un homme, pour être tenté de toutes les manières que nous sommes tentés et pour réussir là où nous avons échoué. Jésus a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre et il s'est proposé comme sacrifice pour prendre la punition que nous aurions dû prendre, afin de nous donner sa justice et afin de prendre notre punition sur lui. Et maintenant, grâce à ce que Christ a fait, Dieu peut créer un nouveau temple, un endroit où le ciel et la terre, le monde de Dieu et le monde des hommes peuvent se chevaucher de manière permanente. Et voici ce qui est incroyable. Dieu dit dans ce passage que le nouveau temple ne sera pas un bâtiment, mais un peuple. Que le nouveau temple sera la communauté des croyants. Alors Pierre prend cette image du temple et il nous dit que pour l'instant, alors que nous attendons le déménagement permanent du paradis sur cette terre, le lieu où son monde et notre monde se chevauchent, c'est la communauté des croyants, le nouveau temple que Dieu construit. Et donc c'est ce que Pierre explique dans ce texte. Il explique à quoi ce temple ressemblera. Et il dit que le nouveau temple de Dieu sera caractérisé par trois choses que nous allons voir ensemble. Donc si vous avez vos Bibles encore, allons au texte. On va lire à partir du verset 4 et on va le prendre petit à petit. Verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle. » Alors le mot en grec pour « maison » que Pierre utilise ici est souvent employé pour parler du temple. Et d'ailleurs, Pierre utilise aussi d'autres images, les prêtres, des sacrifices, etc., pour montrer qu'il pense bien à cela. Que quand Dieu construit une maison spirituelle pour lui-même, il crée en quelque sorte ce nouveau temple. Pierre nous dit alors que nous venons à Christ, d'abord en croyant en lui et puis en poursuivant notre relation avec lui en louange et par la foi, nous constituons ensemble un temple. Dieu est en train de bâtir un nouveau temple où son monde et notre monde peuvent être ensemble, au moins dans un lieu un peu restreint. Pas dans le monde entier encore, pas encore, mais au moins ici. Et les pierres dont Dieu se sert pour construire son temple, C'est nous. Nous sommes des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir son nouveau temple. Alors, c'est une image bizarre, on est d'accord. Les pierres ne peuvent pas être des prêtres, comme on voit un peu plus tard dans le texte. Les pierres ne sont pas vivants. À mon avis, à moins que vous ayez vu des pierres vivantes, moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, à part dans les dessins animés. Wayne Grudem donne une bonne manière de comprendre ce que Pierre dit, ce que Pierre veut dire par tout cela. Il dit, il est mieux de changer notre image visuelle d'un temple pour que nous ne pensions plus à un bâtiment rectangulaire fait de pierre, mais d'un bâtiment, en quelque sorte, bâtiment amorphe qui prend continuellement les dimensions en mouvement du peuple rassemblé de Dieu. Alors que les gens viennent à Christ et continuent à venir à lui en louange, ce temple, ce bâtiment s'élargit et il bouge. Tous les jours, l'église, le temple grandit. Il prend les dimensions du peuple de Dieu qui continue à grandir. En essence, le lieu où le monde de Dieu et le monde des hommes se chevauchent devient de plus en plus grand avec le temps. Donc Pierre dit que chacun et chacune d'entre nous est une pierre vivante et qu'ensemble, avec tous les chrétiens du monde, nous formons le nouveau temple. Et c'est possible par Jésus-Christ. Grâce à ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous pouvons venir dans sa présence et vivre dans la présence de Dieu tout le temps. Chacun d'entre nous, si nous avons la foi en Christ, nous vivons perpétuellement dans le lieu où le royaume des cieux et le royaume de la terre se chevauchent. Nous faisons ce lieu ensemble. Et les implications de cette vérité sont gigantesques, sont stupéfiantes. Nous nous réunissons à l'église tous les dimanches, okay, pour louer le Seigneur ensemble, et en semaine aussi. Et certains imaginent que c'est là que nous entrons dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas faux. Dieu nous dit de nous réunir en tant que communauté. C'est par la prédication de la parole qui nous instruit. C'est par la louange que nous exprimons notre adoration à Dieu ensemble en communauté. C'est là où il nous forme ensemble à vivre comme ce nouveau temple. Mais pourquoi est-ce qu'on imagine que le temple s'arrête lorsqu'on quitte ce lieu? Pourquoi on imagine que la présence de Dieu est moins présente avec nous lorsqu'on n'est pas ici? Nous sommes le temple que Dieu crée. Nous sommes le temple, la communauté des croyants. Nous sommes le lieu où le monde de Dieu et le monde des hommes se chevauchent, où la présence de Dieu habite au milieu des hommes. C'est dans nos rassemblements officiels et communaux ensemble que Dieu nous instruit par sa parole et nous équipe à vivre comme son nouveau temple. Mais notre vie en tant que temple n'est pas limitée à nos rassemblements de dimanche. Ce qui veut dire que chaque fois que les chrétiens mange un repas ensemble. Le ciel et la terre se chevauchent. À chaque fois que vous prenez un café ensemble, entre croyants, le ciel et la terre se chevauchent. À chaque fois que vous faites une soirée jeu ou une soirée cinéma entre croyants, le ciel et la terre se chevauchent. À chaque fois que tu viens à table avec ta famille, si ta maison est centrée sur Jésus-Christ, alors que vous êtes à table avec vos enfants, le ciel et la terre se chevauchent. Chaque fois que le peuple de Dieu se rassemble, qu'on soit 2 ou 200, que le cadre soit formel ou informel, nous créons un lieu, nous créons le lieu où le royaume des cieux est visible sur la terre, où l'excellence de Jésus-Christ est rendue visible et célébrée devant tout le monde. Chaque fois que tu invites quelqu'un qui ne connaît pas Dieu à venir partager du temps avec des croyants, même si c'est juste autour d'un simple repas, tu les invites à venir dans la présence du Dieu très haut pour le rencontrer. Le nouveau temple est caractérisé par cette conscience du caractère, je dirais presque sacré, des rassemblements des croyants, même des rassemblements tout à fait ordinaires. Il n'existe plus de rassemblement ordinaire. C'est une merveilleuse nouvelle. Deuxièmement, le nouveau temple est caractérisé par une humilité centrée sur Christ. Au verset 4, Pierre nous dit que Christ est la pierre vivante, rejetée par les hommes, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Et il continue à soutenir cette image d'une pierre vivante en citant l'Ancien Testament. Donc juste un exemple, verset 6, « Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. » Il est incroyable de voir que même dans l'Ancien Testament, Dieu a prédit que le temple de Jérusalem serait remplacé par un meilleur temple, par un nouveau temple qui aurait une fondation meilleure que le temple précédent, car elle ne serait pas, qu'elle serait pas une pierre, mais un homme. Les passages que Pierre cite parlent du Messie, du Sauveur que Dieu a promis à son peuple, celui qui les sauverait de leurs péchés. Ces Écritures parlent de Jésus. Alors Dieu construit son nouveau temple, il nous utilise comme des pierres vivantes pour construire le temple. Et la pierre angulaire qu'il utilise, la matière première, la fondation de ce temple, c'est Jésus-Christ. C'est la fondation sur laquelle les autres pierres se reposent. Et par définition, la fondation d'un bâtiment est la pierre qu'on met au plus bas, qui soutient tous les autres. C'est elle qui est posée en premier, qui prend le poids du bâtiment sur ses épaules et qui soutient le tout. Jésus était le premier à s'humilier. Alors qu'il était Dieu, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à rechercher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, pour nous dire dans l'Épître aux Philippiens. Si nous sommes un temple bâti sur la fondation qui est Jésus-Christ, nous serons conscients que nous nous reposons sur celui qui s'est humilié en premier. Et donc, nous n'aurons pas d'objection à ainsi nous humilier les uns pour les autres. Notre temple prendra les traits de la pierre angulaire. Puisque Christ s'est humilié pour nous servir, nous nous humilions pour servir. Parce que Christ nous a aimés en premier, nous nous aimerons les uns les autres. Et troisièmement, le nouveau temple sera caractérisé par la prière, par la louange, l'humilité et l'amour. Pierre coule la fondation de son argument. Il nous donne cette image du temple, du lieu où le ciel et la terre se rencontrent et se chevauchent, un lieu qui est purifié et rendu perpétuellement ouvert par le sacrifice de Christ. Et maintenant, il quitte l'image pour parler de la réalité que l'image représente. Le lieu où le ciel et la terre se chevauchent n'est pas un bâtiment, mais un peuple. C'est nous. C'est par un peuple que Dieu manifeste sa présence et ses perfections au monde. C'est par un peuple qui fait connaître son amour. Et c'est ce que dit Pierre au verset 5 d'abord. « Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle. » Un saint sacerdoce, c'est-à-dire ça parle de la fonction du prêtre, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Et un peu plus loin, au verset 9, il dit « Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. » J'aime tellement ce verset. Le peuple d'Israël était déclaré, dans Exode chapitre 19, un peuple de prêtres. Les prêtres étaient ceux qui entraient dans le temple pour offrir des sacrifices à Dieu. C'était des sacrifices de louange, pour adorer Dieu, et les sacrifices d'intercession où ils priaient pour le peuple. Nous louons notre Dieu pour sa grâce et sa miséricorde, et nous prions les uns pour les autres. Et nous prions aussi pour les membres du peuple de Dieu qui ne font pas encore partie du peuple de Dieu. À un moment donné, Philippe ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Maintenant, il fait partie du peuple de Dieu. D'ailleurs, je ne peux pas penser à une meilleure manière de terminer la soirée. Merci. Si vous n'êtes pas croyant ce soir, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, sache qu'avant que vous, avant que vous n'arriviez ce soir, nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Vous êtes entrés dans un lieu où le ciel et la terre se chevauchent. Pas ce bâtiment, mais au milieu de la famille de Dieu, et la route qui vous a amené jusqu'ici a été pavée de nos prières pour vous. Ce n'est pas un accident que vous soyez là ce soir. Nous avons intercédé, nous avons prié pour vous avant même que vous veniez, et donc vous êtes là pour une bonne raison. Il faut le savoir. Et pour nous qui sommes croyants, la raison pour laquelle Dieu nous a acquis comme son peuple aura un impact puissant sur notre manière de nous comporter et de vivre. Dieu l'a fait, verset 9, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant un peuple. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Une nation remplie de personnes qui ont reçu de l'amour et de la grâce sera nécessairement caractérisée par l'amour et par la grâce. Montre-moi un chrétien qui est rapide à juger, qui est excessivement critique. Je vous montrerai un chrétien qui a compris l'évangile ici, dans sa tête, mais pas forcément ici, dans son cœur. Parce que lorsqu'on a compris la grâce qui nous a été donnée, nous n'avons qu'une seule envie, partager cette grâce avec les autres, faire grâce avec les autres, donner de l'amour avec les autres, le même amour que Christ nous a donné. Si nous avons reçu compassion, nous avons envie de donner compassion aux autres. Nous sommes le peuple de Dieu et nous existons pour proclamer ses excellences au monde. Il nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Avant, nous étions tous dans le même cas de figure. On était tous dispersés et perdus. Nous n'appartenions à personne. Mais maintenant, nous sommes son peuple. Avant, nous n'avions pas reçu compassion, mais maintenant, nous avons reçu sa compassion. Avant, nous méritions sa colère, tout comme ceux qui sont destinés à se heurter contre la pierre angulaire. Mais maintenant, nous avons reçu sa miséricorde. Il a fait de nous son peuple, et à chaque fois que le peuple se réunit, son monde et notre monde se réunissent. Et nous avons un avant-goût, on a un avant-goût du paradis, de ce que ça va être quand son monde et notre monde seront réunis parfaitement, seront parfaitement unis de nouveau. Où pendant toute l'éternité, nous célébrerons les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Alors juste pour conclure, à l'Église Connexion, nous avons décidé toutes les semaines de faire des repas fraternels. On fait tous les dimanches. On se rencontre pour le culte à 16h30, on sort à 18h à peu près, et puis après, moi et Loan, on ne vit pas loin de là où on fait l'église, et donc tout le monde, presque sans exception, vient chez nous après pour prendre le dîner ensemble. Ils sont là en ce moment, à manger ensemble. Et nous le faisons, même si c'est beaucoup de travail, ça nécessite une organisation, et c'est beaucoup de bruit à la maison toutes les semaines, mais nous le faisons à cause de cette conviction-là. De la conviction que le rassemblement des chrétiens est le nouveau temple. Qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, le monde de Dieu et le monde des hommes se chevauchent. Alors nous avons envie de multiplier les occasions pour faire cela, pour célébrer cela. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, ça nous donne l'occasion d'inviter des gens qui ne connaissent pas Jésus pour leur montrer à quoi ressemble cette communauté, à quoi ressemble ce nouveau temple. Il nous donne des occasions pour célébrer ces hauts faits. Alors nous nous rassemblons pour le culte, pour louer le Seigneur et pour entendre la parole. Et puis en quittant l'église, nous amenons le temple avec nous. Nous amenons le temple avec nous pour continuer à célébrer sa grâce. Et chaque repas, c'est juste un exemple, mais chaque repas est un lieu saint parce que la présence de Dieu est parmi nous. C'est juste merveilleux. C'est notre prière que Dieu nous donne de nous aimer les uns les autres car Christ nous a aimés le premier. C'est notre prière que nous nous donnions en service les uns pour les autres parce que Christ s'est donné en service pour nous. C'est notre prière que nous soyons un peuple qui est connu pour l'amour et pour la compassion parce que nous savons ce que c'est que d'avoir reçu de la compassion. Et c'est notre prière qu'en invitant des non-croyants à participer à ces moments informels et formels de l'Église, qui passent du temps dans la présence de Dieu et que ça leur donne envie. Car ça leur donne envie de savoir, de connaître celui qui a produit en nous un tel amour les uns pour les autres. C'est comme cela que l'Église doit fonctionner. C'est ce que Pierre dit, l'Église est faite pour cela. Christ est mort pour nous permettre de donner au monde un avant-goût du paradis par notre présence, un peuple qui célèbre les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, qui s'humilie pour l'étranger et pour l'ennemi, et qui montre de la compassion les uns envers les autres, par leur louange, par leur service, par leur prière. C'est une bénédiction incroyable de pouvoir vivre perpétuellement dans la présence de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes créés. Alors soyons-en conscients. Quand on quitte ce lieu ce soir, on ne quitte pas vraiment le lieu. On l'amène avec nous. Prions. Père, nous te remercions pour ta générosité, pour ta compassion, pour ta miséricorde. Merci de nous avoir donné la possibilité de partager ce moment avec Philippe, de voir ensemble cet événement qui est si émouvant encore après toutes ces années. Père, il est merveilleux de nous rappeler d'où nous sommes venus et où tu nous as amenés. Donne-nous, Père, de continuer toujours à partager ces nouvelles ensemble, à partager le témoignage de ta grâce merveilleuse ensemble, qu'à chaque fois que nous réunissons, ce soit un lieu saint et que nous en soyons conscients. Merci pour ton Fils, merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de ton Fils, Amen.